l'écoute de RFI, 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, les bourses européennes qui terminent cette fois en nette hausse.
Oui, après l'annonce de la suspension des droits de douane supplémentaires par Donald Trump pour tout le monde, sauf la Chine. Du coup, l'Union européenne a elle aussi suspendu ses mesures de rétorsion. Par contre, Wall Street plonge après une journée d'hier tellement bonne que certains démocrates parlent de délit d'initié. La Maison-Blanche se défend de toute manipulation. Ce sera le dossier de ce 20h.
Et puis après ce journal, eh bien on tentera de répondre à cette question. Comment les élus républicains ont accueilli le revirement de Donald Trump, la suspension évidemment des taxes par le président américain. Eh bien, la correspondante aux États-Unis de l'hebdomadaire Le Point est allée à leur rencontre et nous l'appellerons.
En Israël, l'armée annonce qu'elle renvoie des pilotes réservistes. Des pilotes qui ont signé une lettre ouverte appelant à garantir la libération des otages, même si cela suppose de mettre fin à la guerre à Gaza.
Et puis en France, François Bayrou, qui sera entendu le 14 mai par une commission d'enquête parlementaire.
Une commission d'enquête sur les violences et les contrôles de l'État dans les établissements scolaires. Le Premier ministre français est accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance des violences et des agressions sexuelles commises dans l'établissement catholique de Bétarame.
Ce chiffre donc, pour débuter, plus 145% à chaque jour, ces droits de douane supplémentaires pour la Chine.
Oui, brandi et appliqué par Donald Trump, le président américain, qui avait déjà hier remonté les droits de douane pour Pékin à 125%. Aujourd'hui, c'est encore pire. Et les marchés américains, qui avaient ouvert dans le rouge, se sont enfoncés encore plus. À 16h10, le Dow Jones perdait 4,20%, le Nasdaq 5,78%. Tandis que le pétrole et le dollar dévissent. Les bourses européennes, elles, au contraire, ont carrément bondi. Il faut dire que les surtaxes ne touchent plus que la Chine, puisqu'hier, Donald Trump a annoncé qu'il les suspendait pour tous les autres pays pendant 90 jours. Des pays qui restent quand même visés par 10% de droits de douane additionnels. Alors après cette annonce, l'Union européenne suspend, elle aussi, sa riposte pendant 90 jours pour donner une chance aux négociations. Annonce faite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur le réseau X. Écoutez, Olaf Gill, c'est un des porte-parole de la Commission.
Nous voulons négocier, nous voulons discuter. Nous apprécions que le président américain ait mis en suspens les soi-disant droits de douane réciproques et nous, en retour, mettons maintenant en suspens nos contre-mesures proposées afin de disposer d'un maximum de temps pour consulter nos États membres, notre industrie et négocier avec les États-Unis. Nous sommes prêts à conclure des accords. Parlons-en.
Olaf Gill, un des porte-parole de la Commission européenne. On se tourne maintenant vers notre correspondant à Washington, Guillaume Dodin. Bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
On l'a dit, les marchés financiers aux États-Unis sont à nouveau dans le rouge. Les investisseurs sont entre l'évaluation de la nouvelle situation et leur prise de bénéfices. Prise de bénéfices car la journée d'hier, après l'annonce de Donald Trump, a battu tous les records. En fait, Guillaume, la journée a été tellement bonne que certains élus démocrates se demandent si tout cela ne tient pas du gigantesque délit d'initié.
Oui, un délit d'initié, c'est quand on fait des opérations de bourse avec des informations qui ne sont pas publiques et comme son nom l'indique, c'est un délit. Et parmi ceux qui froncent les sourcils, il y a le sénateur de la Californie, Adam Schiff. Il annonce qu'il va demander des explications à la Maison-Blanche et il explique que le Congrès a droit à des réponses. Il n'est pas le seul. La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, dit qu'elle a entendu des conversations bien intéressantes chez ses collègues républicains hier en séance et que chacun devrait peut-être rendre public ses achats et vente d'actions au cours des dernières 48 heures. Il y a pas mal de politique là-dedans, mais il y a quand même des questions qui se posent.
Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir sur ce qui s'est passé hier.
Oui, hier, c'était la première journée des droits de douane dits réciproques qui ont causé beaucoup d'inquiétudes et de volatilité sur les marchés depuis des jours et des jours. Peu après une ouverture plutôt à la baisse mais hésitante, Donald Trump publie deux fois sur son réseau social personnel. Une première fois pour dire à tout le monde de garder la tête froide, de garder son calme. Et une autre pour dire que le moment est bien choisi pour acheter. Et c'est signé DJT, ce sont ses initiales, Donald J. Trump. Mais ce sont aussi les lettres par lesquelles est désigné à Wall Street le Trump Media and Technology Group. C'est l'entreprise qui possède son réseau, Truth Social, et dont il possède lui-même près de 60% des parts. Cette entreprise est cotée au Nasdaq, le marché est l'indice des valeurs technologiques. Et donc, moins de 4 heures plus tard, Donald Trump, qui on le sait a mûri sa réflexion et sa décision depuis la veille, annonce la suspension des droits de douane. Le marché explose et le Nasdaq regagne une partie de ses pertes des derniers jours avec un bond de 12%. Et le Trump Media and Technology Group gagne près de 22%, une très Très bonne affaire, donc, pour ceux qui ont suivi le conseil du président quelques heures plus tôt et ont acheté au plus bas.
Mais, Guillaume, la Maison-Blanche, elle, se défend de toute manipulation.
Oui, dans un communiqué, il est expliqué que le président n'a voulu que rassurer les marchés et les Américains. Le représentant américain pour le commerce, Jamie Greer, qui était justement entendu par une commission de la Chambre des représentants, se défend de toute manipulation des marchés et affirme qu'il s'agit de remettre à plat le commerce mondial.
Alors que peut-il se passer maintenant ?
Alors il faut voir comment vont se développer les demandes d'explication des démocrates. Il y a aussi la possibilité d'une enquête de la Commission des opérations de bourse, la SEC, qui jusqu'ici n'a fait aucun commentaire. Il faut dire que son nouveau patron, désigné par Donald Trump, a justement été confirmé hier soir par le Sénat au terme de cette folle journée. Vous voyez, Christophe, la vie est parfois bien faite.
Certes. Merci Guillaume Nodin, en direct de Washington.
L'Iran annonce et qu'elle pourrait suspendre sa coopération avec l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Oui, si les menaces externes persistent. Une référence aux propos de Donald Trump, qui a évoqué un recours à la force contre l'Iran. Très exactement, il a averti Téhéran d'un grand danger s'il estimait que les négociations sur le nucléaire aboutissaient à une impasse. En Israël, le ministre des Affaires étrangères réagit aux propos d'Emmanuel Macron. Hier, le président français a indiqué que la France pourrait reconnaître au mois de juin un État palestinien lors d'une conférence aux Nations Unies à New York. Eh bien, pour Gideon Saar, ce serait une récompense pour le terrorisme. Alors, cette reconnaissance est-elle seulement possible sans le Hamas, comme le souhaite le président français? Il n'est pas le seul. La réponse de Thomas Vescovi, historien et doctorant en études politiques à l'EHESS et à l'Université libre de Bruxelles.
La bande de Gaza aujourd'hui, si le Hamas demain dit, bien, ce qu'ils ont déjà d'ailleurs affirmé, hein, on est prêt à déléguer ou à laisser le pouvoir, la question c'est qui remplace. L'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas sont complètement décrédibilisés auprès de la population palestinienne. Il y a une absence totale de renouvellement de la direction politique palestinienne et c'est là en fait où la reconnaissance doit s'accompagner de sanctions et de politiques coercitives à l'encontre d'Israël. Précisément parce que dans les prisons de l'armée israélienne, vous avez des milliers et des milliers de prisonniers politiques palestiniens, comprenant également des responsables politiques. On pense notamment évidemment à Marwan Barghouti, qui est le plus connu. Sans la libération de ces cadres politiques-là, il ne peut pas y avoir en Palestine de renouvellement complet du champ politique et de la direction politique qui peut, à l'inverse, justement permettre ce renouvellement d'aller vers l'avant et donc de voir entre Gaza et la Cisjordanie une unité palestinienne et un nouvel avenir qui s'écrirait effectivement avec le Hamas qui serait mis hors du pouvoir dans la bande de Gaza.
Thomas Vescovi, interrogé par Anne Kantner.
Toujours concernant Israël, l'armée qui annonce aujourd'hui qu'elle renvoie des pilotes réservistes.
Des pilotes qui ont signé une lettre ouverte appelant à garantir la libération des otages, même si cela suppose de mettre fin à la guerre à Gaza. 1000 pilotes et aviateurs de réserve et à la retraite ont ainsi ouvertement défié la politique du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et plusieurs journaux israéliens ont relayé ce courrier ce jeudi. Envoyé spécial de RFI à Jérusalem, Abla Junaidi.
Ce n'est pas le premier courrier du genre, mais le nombre, 970 signataires, fait son effet. Après les menaces pour empêcher sa publication, l'état-major et le ministère de la Défense ont décidé de renvoyer les signataires actuellement mobilisables. La guerre, selon ses réservistes, sert désormais des intérêts politiques et personnels, un argument souvent entendu chez l'opposition politique et chez certains proches d'otages. Pour le cabinet du premier ministre Benjamin Netanyahou, les signataires sont des extrémistes marginaux. Pourtant, cette lettre n'appelle pas à un refus général de servir, selon les militaires qui l'ont signé. Elle enjoint le gouvernement à donner la priorité à la libération des otages plutôt qu'à la poursuite de la guerre. La poursuite de la guerre, disent les réservistes, entraînera la mort des otages, des soldats et des civils innocents. Plusieurs réservistes avaient déjà refusé de retourner à Gaza, où des experts de l'ONU ont estimé que les méthodes de guerre israéliennes correspondaient aux caractéristiques d'un génocide. Le mois dernier, deux soldats israéliens qui protestaient contre la reprise des bombardements ont été renvoyés par leur hiérarchie. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
En Turquie, deux tribunaux d'Istanbul ont ordonné ce jeudi la remise en liberté de 107 étudiants détenus pour avoir participé à des rassemblements demandant la libération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Il avait été arrêté le 19 mars, ce qui a provoqué dans les rues une contestation d'une ampleur inédite en Turquie depuis 2013. 8 jours après, les autorités avaient annoncé avoir arrêté plus de 1800 personnes dans plusieurs villes du pays.
RFI, 18h, bientôt 10 minutes en temps universel. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir avec Christophe Paget. 3h10 du matin à Séoul, en Corée du Sud, où le président Yoon Suk-yeol a été destitué. La semaine dernière, on rappelle qu'il avait tenté d'instaurer la loi martiale.
Oui, ce départ forcé ouvre la voie à une présidentielle. Ce sera le 3 juin prochain. présidentielle dans laquelle le chef de l'opposition partait déjà favori avant d'annoncer sa candidature, ce qu'il a fait aujourd'hui. En 2022, Lee Jae-myung avait perdu de justesse. Dans un peu moins de 2 mois, il espère prendre sa revanche. Yeena Tomic.
Dans une vidéo d'une dizaine de minutes, Lee Jae-myung s'est engagé à guérir une société profondément divisée par des inégalités qu'il promet de combattre. Alors que la campagne présidentielle ne devrait démarrer que le 12 mai, Lee a promis de stimuler la croissance économique à l'aide d'investissements à grande échelle dans la technologie et le développement des talents. Cet ancien avocat, grand partisan du revenu universel, va affronter les critiques des conservateurs concernant son style clivant et ses ambiguïtés idéologiques. Lee se veut rassurant. Il poursuivra les bonnes relations avec Tokyo et Washington, même si ce qu'il considère comme les intérêts nationaux du pays resteront ses priorités. Mêlé à plusieurs affaires de corruption présumée, l'ancien maire et gouverneur de province pourrait voir sa candidature entravée par la justice. Dans la course à la présidentielle, plusieurs rivaux, dont Han Dong-hoon, l'ancien dirigeant du parti conservateur et chef de faction anti-Yoon, qui a mobilisé dès jeudi les électeurs centristes pour empêcher l'investiture, je cite, d'un gouvernement de monstres populistes dirigé par Lee.
Yeena Tomic, on a appris aujourd'hui que la Serbie avait expulsé plus de 10 ressortissants croates en 3 mois, tous soupçonnés de soutenir les manifestations qui secouent le pays. La Croatie demande des clarifications à Belgrade, qualifiant ces expulsions d'inacceptables. En Serbie, cela fait des mois que plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent contre la corruption. Selon le président Vučić et les responsables politiques serbes, ils sont manipulés par des agents de l'étranger qui veulent faire tomber le président.
Et puis, 6 activistes arrêtés dans la capitale britannique à Londres.
Oui, ils voulaient protester contre la vente d'armes américaines à Israël. Parmi eux, le co-directeur de Greenpeace Royaume-Uni. Et s'ils ont été arrêtés, c'est parce que la police les soupçonne de dégradation criminelle et volontaire. Correspondance Emeline Vin.
Il n'est pas 8 heures ce jeudi matin à Londres quand une douzaine d'activistes arrivent devant l'ambassade américaine déguisée en livreur à vélo et déversent 300 litres de colorant rouge sang dans l'étang qui borde le bâtiment ultramoderne. Sur les conteneurs, les mots « arrêtez d'armer Israël ». Greenpeace, à l'origine de la manifestation, indique dans un communiqué « Les États-Unis sont le plus gros fournisseur d'armes à Israël et portent une lourde responsabilité dans les horreurs qui se déroulent à Gaza », fin de citation, en référence aux milliers de victimes civiles de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne, en réplique à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. La police arrête 6 personnes dans l'après-midi, dont le co-directeur de l'ONG environnementale, pour dégradation criminelle avec préméditation. Les activistes encourent jusqu'à 10 ans de prison. Greenpeace, qui défend un embargo total des ventes d'armes à Israël, y compris par le Royaume-Uni, explique avoir utilisé des colorants biodégradables et non toxiques et dénonce une nouvelle attaque à la liberté de manifester dans le pays après la condamnation de plusieurs éco-activistes ces derniers mois pour leurs actions. Emeline Vin, Londres, RFI.
De Londres à Paris, on évoque à présent l'actualité française. Alors que le scandale autour des violences et des agressions sexuelles au lycée de Bétaram continue, eh bien on a appris que François Bayrou serait entendu le 14 mai par une commission d'enquête parlementaire.
Oui, et son entourage a indiqué qu'il allait bien s'y rendre. Alors cette commission parlementaire, c'est une commission d'enquête sur les violences et les contrôles de l'État dans les établissements scolaires. Le Premier ministre est accusé par la gauche d'avoir menti sur sa connaissance de ce qui se passait à Bétaram, alors qu'il était ministre de l'Éducation et que plusieurs de ses enfants y étaient scolarisés. François Bayrou récuse tout mensonge. Ce jeudi, la commission a entendu plusieurs témoins clés qui maintiennent leur version. François Bayrou savait. On se dirige maintenant vers Cannes pour le 78e festival de cinéma dont on connaît depuis ce jeudi la sélection. 19 films sont en compétition pour la Palme d'Or. Le directeur artistique Thierry Frémaux les a dévoilés ce matin au menu. Des cinéastes habitués comme Wes Anderson ou les frères Dardenne et évidemment des nouveaux venus. Au total, toutes catégories confondues, une 50aine de longs métrages font partie de la sélection officielle. Thierry Frémaux parle d'une sélection à l'image de l'état du monde. Écoutez.
La sélection porte les mêmes valeurs que celles qui ont présidé à la naissance du Festival de Cannes. C'est les valeurs d'universalité, de pensée, mais aussi de géographie. Il y a des films égyptiens, des films brésiliens, un film ukrainien. Nous avons, pour la première fois, je crois, un film nigérian. Il y a un certain nombre de films témoignent de ce que sont les réalités contemporaines. Par exemple, le film de Sébastien Lelio sur les combats des féministes chiliennes, ou, de manière peut-être plus distanciée, mais néanmoins très présente à notre monde cet essai cinématographique de Raoul Peck sur George Orwell, dont les écrits des années 30, des années 40, dont l'existence de sobriété, d'intégrité que Orwell s'est promis à lui-même, il ramène ça au présent pour interroger notre époque. C'est aussi une sélection qui va rassembler des thèmes éternels, le cinéma lui-même, et puis l'amour qu'on retrouve partout, parce que c'est pas prêt de disparaître, et en tout cas, cette sélection en porte la trace.
Thierry Frémaux au micro de Sophie Torlotin. Et puis le footballeur Kylian Mbappé a fait saisir par le tribunal judiciaire de Paris les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d'euros à titre conservatoire. L'attaquant français, ancien du PSG, réclame depuis plusieurs mois le versement de ses trois derniers mois de salaire et aussi de primes. Ses avocats ont annoncé qu'il allait saisir les prud'hommes.
Eh bien, merci Christophe Pagé. C'était le grand journal du soir et ça tombe bien parce que Thomas de Saint-Gé est déjà à nos côtés. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Romain.
On va retrouver dans quelques instants le journal des sports.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mais avant cela, un coup d'œil au programme qui vous attend, ce sera après les sports. Cette question, comment les élus républicains ont-ils accueilli le revirement de Donald Trump, la suspension évidemment des taxes par le président américain, la correspondante aux États-Unis de l'hebdomadaire Le Point est allée à leur rencontre et nous l'appellerons dans les toutes prochaines minutes. Et puis nous irons à la Réunion où l'épidémie de chikungunya est désormais considérée comme généralisée et majeure par les autorités sanitaires françaises, d'où une campagne de vaccination inédite qui a été lancée cette semaine. Notre reportage à suivre. Mais tout d'abord donc les sports et le football. Évidemment, d'une compétition continentale à l'autre, Thomas de Saint-Léger, la Ligue Europa prend le relais aujourd'hui et bien de la Ligue des Champions.
Et c'est le même programme, quart de finale aller, quatre affiches, un match en cours déjà. Bodø/Glimt reçoit la Lazio Rome et surprise, après 70 minutes de jeu, le club norvégien mène 2-0 à 19h, temps universel dans un peu moins de 45 minutes. Donc nous aurons Tottenham, Eintracht Francfort, Glasgow Rangers, Athletic Bilbao et Lyon, Manchester United. Lyon en forme en Ligue 1 face à une équipe mancunienne catastrophique dans son championnat, éliminée des coupes nationales et qui n'a donc plus que cette Ligue Europa pour sauver sa saison. Une équipe dont se méfie quand même le milieu de terrain lyonnais Nemanja Matic. En même temps, le Serbe connaît la maison. Il a joué à United entre 2017 et 2022.
Yeah, we face a very good team.
On va jouer contre une très bonne équipe, un grand club, et forcément, c'est toujours particulier de les affronter. On s'attend à une grosse bataille sur deux matchs, parce qu'on sait que l'aller ne va rien décider. Il faudra être prêt, mais à la maison, avec nos supporters derrière nous, on aura une belle chance d'obtenir un bon résultat et de se mettre dans les meilleures conditions pour le retour à Old Trafford. Notre objectif est clair. On veut jouer la Ligue des Champions l'an prochain. On a deux options, finir dans le top 3 en championnat ou aller chercher la Ligue Europa. Et on va tout donner pour aller au bout dans cette compétition.
Nemanja Matic, le milieu de l'OL qui croisera ce soir André Onana, le gardien camerounais de Manchester United, avec qui il s'est écharpé hier par presse et réseaux interposés. La poignée de main risque d'être glaciale.
On va suivre ça. Donc ça, c'est la Ligue Europa, mais il y a aussi ce soir de la Ligue Europa Conférence.
La petite dernière de ces compétitions européennes avec des clubs forcément un peu plus exotiques pour ces quarts de finale aller. Chelsea, qui est un peu l'intrus de cette liste, est en déplacement sur le terrain du Legia Varsovie. Et Chelsea mène 2-0 à 20 minutes de la fin de cette rencontre. La suite tout à l'heure, je vous donne les affiches. Du Guardians, ça vous dit quelque chose?
Évidemment.
Suède, face au Rapid de Vienne. Le NK Cellier de...
Face à la Fiorentina.
Ouais, de Slovénie. C'était le test, donc face à la Fiorentina. Et enfin, Betis Séville, Jagiellonia, Bialystok, le club du fameux Pouloulou, ce buteur angolo-congolais qui est la terreur des surfaces de réparation en Pologne et qui est le meilleur buteur d'ailleurs de cette Ligue Europa Conférence.
Alors moi je dis chapeau. Voilà pour le foot Thomas. On en vient au tennis. Ça va très bien pour Arthur Fils. Il est en quart de finale du Masters 1000 de Monte Carlo.
Le jeune français à l'aise sur cette terre battue monégasque, il a écarté facilement le russe Andrei Rublev, tête de série numéro 7, 6-2, 6-3. La confiance est là, ça se voit et ça s'entend.
C'était un très très bon match. Je pense pas le meilleur match de toute ma vie, mais c'était un bon match quand même. Franchement, pas grand chose à dire. Mais après, les matchs, quand on rentre sur le terrain, ils sont jamais faciles. On se les rend faciles. On se les rend un peu plus abordables. J'ai réussi à réaliser des bons... deux fois, enfin hier et aujourd'hui, des bons débuts de match. Donc à partir de ce moment-là, ça change le cours du match. Quand tu commences très bien, t'es en confiance. Et puis j'ai fait deux très bons matchs. Bon, je les ai gagnés assez facilement dans le score, mais ça aurait pu être plus compliqué.
Arthur Fils opposé au prochain tour au grand favori du tournoi, l'Espagnol Carlos Alcaraz, sans pitié tout à l'heure pour l'Allemand Daniel Altmaier. 6-1-6-3 sont qualifiés également pour les quarts, l'Italien Musetti, l'Espagnol Davidovich Fokina, le Grec Tsitsipas, ainsi que la paire d'Australiens Alexei Popirin, Alex de Minor tombeur respectivement, du Norvégien Casper Ruud et du Russe Daniil Medvedev. Rapidement peut-être le basket, 34e et dernière journée de la saison régulière en Euroleague et derniers enjeux. Donc Monaco, qui est quatrième dans le bon wagon pour la qualification directe en quart de finale, doit assurer sur le parquet d'un autre club français, l'ASVEL, de son côté déjà éliminé. Et puis Paris, le Paris Basket reçoit l'Alba Berlin. Paris de toute façon assuré, quoi qu'il arrive, d'être barragiste.
Ben voilà qui est complet. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger. Il est 14h, bientôt 21 minutes à Washington. Les marchés soufflent donc ce soir, 24 heures après le revirement spectaculaire de Donald Trump sur les droits de douane. Le président américain, on le rappelle, qui a annoncé une suspension de 3 mois des surtaxes appliquées à 60 pays. En revanche, la Chine n'est pas concernée. La tension d'ailleurs entre les deux pays continue de monter puisque Pékin est désormais concerné par des droits de douane s'élevant à 145%. Bonsoir Claire Ménial.
Bonsoir.
Correspondante aux États-Unis pour l'hebdomadaire Le Point. Alors vous intéressez dans le journal publié ce jeudi aux conséquences de la guerre commerciale de Donald Trump sur son camp, le camp républicain. Ce sera ma première question. Comment est-ce que les élus du parti ont accueilli la décision prise hier soir par Donald Trump ?
Alors déjà la première question c'est comment l'ont-ils appris ? Il y a eu cette scène absolument stupéfiante hier pendant une commission parlementaire sur une commission fiscale où on s'est aperçu que Jamieson Greer, qui est le représentant du commerce, a appris, comme tout le monde, la nouvelle par un message posté sur Truth Social par Donald Trump. Donc ça a donné lieu à une scène très théâtrale, comme on en voit beaucoup en commission, avec un élu démocrate qui lui a demandé, je suis navrée pour la traduction littérale, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qui est aux commandes, vous n'étiez même pas au courant. Donc il y a ce premier aspect de la question qui est qu'on se rend compte qu'il y a très peu de coordination avec le reste du parti et même avec ceux qui sont censés élaborer ces politiques avec Donald Trump. Ensuite, comment est-ce que ça a été accueilli ? Eh bien évidemment par les républicains avec une forme de soulagement, notamment si vous êtes élu d'un État industriel ou agricole, ces droits de douane allaient avoir des conséquences très inquiétantes pour l'économie, en particulier à cause de la probabilité de taxes de rétorsion. Mais il faut garder en tête quelque chose, qui est que les taxes sur l'acier, sur l'aluminium et avec le Canada, celles-ci subsistent. Donc si vous êtes quelqu'un comme Susan Collins, sénatrice du Maine, qui est un État frontalier du Canada, ou Tom Tillis de Caroline du Nord, qui commerce énormément avec le Canada, ça vous affecte quand même. Le Maine, c'est les produits pétroliers raffinés, ils dépendent à 95% du Canada. L'industrie du bois, c'est tout bête, mais le bois de construction vient énormément du Canada. Ça va affecter la possibilité de la construction de maisons, ce qui est un thème extrêmement important politiquement quand on en manque, par exemple.
Est-ce que le Parti républicain commençait à se fissurer avec cette guerre commerciale menée par Donald Trump ? Et est-ce que justement cette annonce d'une suspension des surtaxes, elle est d'augure à apaiser, à rassembler le camp républicain ?
Alors la fissure était petite, c'est toujours très compliqué pour les élus républicains de se séparer de Donald Trump pour plusieurs raisons. La base lui est vraiment acquise, ce qui veut dire que lors de primaires, d'élections locales, vous avez un gros risque qu'il lance contre vous un candidat MAGA, comme Make America Great Again, c'est-à-dire son mouvement, qui lui va gagner contre vous. Certains sont tout simplement victimes de menaces de mort aussi, donc il faut prendre cette dimension en compte. Il y a une vraie peur. Mais c'est vrai qu'on avait vu des projets de loi, par exemple, pour essayer de redonner au Congrès le pouvoir sur ces lois commerciales. Il faut voir où va ce projet de loi maintenant. Après, il faut être assez honnête, c'était des projets de loi poussés par un sénateur âgé, Chuck Grassley, qui a 91 ans. Les plus jeunes, eux, pensent aux élections générales de mi-mandat, ce qu'on appelle les midterms, qui sont en novembre 2026. Donc, il y avait un début de fracture, puisque ces élus pensent tout simplement à leur carrière politique. Il faut voir ce que ça donne sur le long terme. Mais encore une fois, de toute façon, on ne sait pas ce que ça va donner dans 3 mois.
Et d'ailleurs, si on tente de se projeter, parce qu'encore une fois, là, il s'agit que d'une suspension temporaire des droits de douane qui ont été annoncés par Donald Trump. Et malgré les pressions que vous avez évoquées, est-ce qu'on peut imaginer les Républicains se retourner un jour contre Donald Trump?
C'est très compliqué, encore une fois, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Il a une emprise sur la base qui est très très forte. Donc il y a vraiment un fonctionnement très particulier dans les élections ici, qui sont les primaires. Et les primaires, qui y participent? Les électeurs les plus motivés. L'effet mécanique est que le candidat le plus extrême est celui qui gagne. Parce qu'il faut être vraiment très motivé pour aller voter dans les primaires de chaque parti. Donc vous prenez un vrai risque si vous séparer de Donald Trump à l'heure actuelle. S'il y a une énorme crise économique, par exemple, là, oui, il serait en risque. C'est probablement une dimension qu'il a prise en compte en déclarant cette pause.
Eh bien, c'est un dossier à retrouver dans Le Point cette semaine et évidemment sur le site internet de l'hebdomadaire. Merci beaucoup, Claire Ménial.
Merci.
Allez, direction à présent la Réunion où l'épidémie de chikungunya a franchi un nouveau palier. La voilà désormais considérée comme généralisée et majeure selon Santé publique France, les autorités publiques françaises, sanitaires. Le chikungunya, c'est ce virus transmis par les moustiques, déjà plus de 27 500 cas recensés depuis le début de l'année sur l'île française. La maladie se traduit par de la fièvre, de fortes douleurs articulaires, parfois même des éruptions cutanées. Plusieurs dizaines de cas graves ont été enregistrés, notamment touchant les personnes âgées et les bébés également. Pour se protéger, une campagne de vaccination inédite a été lancée en début de semaine. Reportage à Saint-Denis de La Réunion, signé Lola Fourmi.
Depuis 4 jours, à La Réunion, les pharmaciens et médecins peuvent vacciner contre le chikungunya. 40 000 premières doses ont été livrées, comme ici, à la pharmacie de la Trinité.
Alors, ça c'est le vaccin X-Chik. C'est le vaccin qui est préconisé pendant l'épidémie du chikungunya.
Paul Dumas est pharmacien et face à cette campagne inédite, il faut rassurer autour du tout nouveau vaccin créé par le labo franco-autrichien Valneva, expliquer par exemple qu'il n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'ARN messager utilisé contre le Covid.
C'est un virus de chikungunya atténué qu'on injecte au patient et le patient va développer des anticorps contre le chikungunya et après il sera protégé par rapport à ce virus.
Protégé au bout de 15 jours après l'injection et pour au moins 3 ans. Malgré tout, certaines personnes hésitent encore, comme Bernadette.
Je veux en même temps parce que j'ai un problème cardiaque et en même temps je ne veux pas parce que j'ai fait trop de vaccins ces derniers temps. Mon mari va le faire. Lui, il attend ça avec impatience et les habitudes, c'est sûr qu'il va le faire.
Pourtant, les 10 doses quotidiennes réservées dans chaque pharmacie aux plus de 65 ans souffrant de comorbidité trouvent preneur. Patrick a 76 ans, de l'asthme et un problème au rein. Il a donc saisi l'occasion de cette injection gratuite avec une ordonnance.
C'est par sécurité, en fait. On trouve que c'est idiot de risquer de tomber malade pour une absence de vaccin. Donc, il existe, autant le faire. J'ai mes petits voisins qui viennent de l'avoir tous les deux, 39 de fièvre, 3 jours malade, pour pouvoir se traîner. J'ai pas envie de vivre ça, quoi. Puis, moi, je crois à la vaccination.
Et pour se donner du courage, Patrick n'est pas venu seul.
Cathy, j'ai 61 ans. Du coup, je suis la conjointe de Patrick et je voulais me faire vacciner en même temps, même si je ne suis pas éligible du coup au vaccin, puisque je suis trop jeune et je n'ai pas de comorbidité. Donc, j'ai payé mon vaccin et je me fais vacciner en même temps que lui pour éviter que, éventuellement, si moi je l'attrape avant qu'on soit immunisés tous les deux, c'est une sécurité pour nous deux en fait aussi. Et puis, j'ai appris que pour les femmes enceintes, c'était un petit peu très compliqué. On a une fille qui va peut-être être enceinte, donc du coup, j'ai pas envie de ramener ça dans son jardin ou sur elle. Je crois que c'est une sécurité pour tout le monde.
Un vaccin coûteux pour ceux qui ne sont pas pris en charge. Prix de vente conseillé, 190 euros. Une injection qui, pour l'heure, n'est pas recommandée aux femmes enceintes et aux enfants.
Reportage signé Lola Fourmi à Saint-Denis de La Réunion. Ne bougez pas, dans une minute, c'est Afrique Soir, la première édition.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Face à la guerre en Ukraine et aux menaces de la Russie, l'Europe veut se réarmer. Comment mobiliser les industries de défense? Comment financer ces dépenses imprévues en pleine guerre commerciale? Et alors que les tensions montent avec l'allié américain, on en parle avec nos invités.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
L'épopée des musiques noires.
Chef d'orchestre de renom, le pianiste Richard Payne, originaire de l'île de Sainte-Lucie, veut donner de l'éclat à toutes les couleurs culturelles des Caraïbes. Il a donc invité pour son nouvel album des instrumentistes chevronnés dont les racines haïtiennes, cubaines, guadeloupéennes et martiniquaises ont magnifié son répertoire. Joe Farmer a assisté à sa genèse en studio à découvrir dans l'épopée des musiques noires, samedi à 13h30 TU.
RFI.